I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
On y arrive enfin, pourquoi j'ai commencé.
Dans cet épisode de la Quinterview.
J'étais à Paris avec mon copain et en passant devant Bar Le Raid, on tombe devant
sont deux queens de Drag Race US.
Drag Race US qui ont une popularité énorme. Et à je sais plus quel moment, mon copain dit « Mais Clyde, il fait du drag, regardez !» Et il sort une photo. Et là, les deux me regardent et elles me disent « Mais t'as du potentiel, donc tu vas arrêter de faire ça dans ta chambre, tu vas sortir et tu vas faire du drag. »
La Queen Interview. I am the queen of drag.
Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours Bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, non, je ne suis pas au salon de l'agriculture, c'est un épisode qui est enregistré depuis La Felicita à Paris dans les coulisses d'un événement organisé par le collectif Cours des Miracles et hosté par la fameuse Coco Ricard. Pour commencer, merci à elle. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter un ou une artiste qui fait du drag depuis moins d'un an et demi. Et elle est originaire de Guadeloupe, mais c'est à Lyon qu'elle a planté ses faux ongles il y a une dizaine d'années. Son drag est glamour, elle se définit comme étant une diva de proximité. En même temps, quand tu es inspiré d'Aretha Franklin, de Whitney Houston, de Tina Turner, et ta mère, il n'y avait pas d'autre issue. Enfin, quand je dis ta mère, c'est la sienne. Sauf si ta mère, bah, c'est une diva. Bref, bienvenue pour ta Quinterview, Aphrodite Amour.
Ouais, merci.
J'ai l'impression que l'intro t'a perturbé.
Je ne savais pas si on parlait de ta mère ou ma mère. Ou...
Non, globalement, on parlait de ta mère. Ta mère est une diva.
Ma mère est une diva.
Je me suis pas trompé.
On se trompe jamais en disant que ma mère est une diva.
Est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview ?
Absolument prête.
Oh, ok, formidable. D'ailleurs, avant de commencer, quels sont tes pronoms ? Comment je m'adresse à toi ?
Alors, là, vu que je suis en train de me maquiller, on est à moitié entre il et elle. À la fin, on sera sur elle. En général, c'est il.
Ok, ça marche. Donc, voilà, effectivement, on entend beaucoup de bruit autour de nous. C'est parce que nous sommes à la Felicita. Et donc, forcément, c'est en plein air. Donc, forcément, il y a un petit peu de bruit. Mais ça va être quand même un épisode très, très sympa. Donc, voilà, je suis devant Clyde, qui est en train de se transformer en Aphrodite Amour. Dans un premier temps, avant de parler avec Aphrodite, tant qu'on est déjà encore Clyde devant moi, je voulais savoir un peu où est-ce que tu as grandi et quelles sont tes origines.
Alors, je suis d'origine guadeloupéenne. J'ai grandi à Petit-Bourg, du coup en Guadeloupe, au milieu de trois frères et sœurs, une mère et un beau-père. J'ai fait l'aller-retour un petit peu toute ma vie. C'est-à-dire que je suis né en Guadeloupe, ensuite j'ai été à Lyon, puis je suis revenu en Guadeloupe, puis je suis revenu à Lyon encore. Et depuis, je reste un petit peu à Lyon.
Ok. Comment c'était de grandir en Guadeloupe ?
Alors, la Guadeloupe, c'est magnifique, c'est fantastique. Je pense que je ne changerai pas mon passé, mais la terre de champion n'est pas une terre d'acceptation. Être un enfant queer et grandir en Guadeloupe, c'est peut-être pas la chose la plus facile du monde. C'est vrai que j'aurais pu être mieux accompagné, j'aurais pu avoir plus de personnes pour qui m'identifier. Ça a été assez compliqué à ce niveau-là.
Ok. Parce que, qu'est-ce que tu dirais sur la Guadeloupe ? C'est-à-dire que les gens n'osent pas s'affirmer, se montrer tels qu'ils sont ? Exactement. Pour quelle raison ?
Exactement. En fait, il y a un gros jugement, il y a un gros regard vis-à-vis de l'autre. Il y a une réelle difficulté à assumer qui on est en Guadeloupe, qui fait que tout le monde a envie un petit peu de rentrer dans le même moule. Un moule qui vient forcément de tout ce qui est pression religieuse, regard de l'autre. Parce qu'au final, c'est quand même un petit village. Et du coup, c'est vrai que les gens vont avoir peur d'assumer qui ils sont.
Comment tu as réussi à vivre ça ? Est-ce que tu essayais de, on va dire, vivons heureux, vivons cachés ?
Exactement. Toute mon adolescence, en fait, je me concentrais sur le fait que un jour j'allais partir de la Guadeloupe, que j'allais commencer à évoluer de mon côté. Du coup, c'est vrai que je, sans refouler qui j'étais, je ne le montrais pas forcément.
Et tes parents, enfin, est-ce que t'en discutais avec eux ou est-ce que t'en as parlé avec eux de, on va dire, de toi, de ton être et de ta manière, voilà, d'interagir avec les gens et les gens qui interagissaient aussi avec toi ?
Alors, j'ai fait un premier coming out à ma mère quand j'avais 14 ans, où clairement elle m'a dit de revenir dans le placard. Elle n'a pas du tout accepté. Au contraire, mes parents étaient plutôt du style à me dire « Tiens-toi droit, ne sois pas trop efféminé, ne montre pas qui tu es. » Je pense qu'il y avait une peur du regard de l'autre, mais également une peur pour moi, parce qu'ils voulaient me protéger au final. Donc c'est vrai que j'ai jamais vraiment trouvé de réconfort auprès d'eux à ce moment-là.
Ok. En fait, ils étaient un peu inquiets.
Ouais, absolument. Absolument. Surtout ma mère, en fait, elle a toujours été très très inquiète pour moi. Elle a toujours voulu le meilleur pour moi. Et pour elle, le meilleur, eh ben, c'était rentrer dans le moule.
Est-ce que quand on grandit comme ça, on va dire sans représentation, et aussi avec justement pas pouvoir être réellement comme on est, comment toi tu réussissais à vivre, à grandir ? Est-ce que tu avais quand même un peu des potes ?
Alors j'avais pas mal d'amis pour le coup. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, j'ai toujours été bien entouré, mais j'ai jamais vraiment eu d'amitié queer. C'est ce qui me manquait quand j'étais adolescent. C'est-à-dire que c'était très compliqué de former un vrai lien avec les gens. Quand je dis que j'avais beaucoup d'amis, c'est que j'avais beaucoup de personnes qui m'entouraient, mais je me suis jamais réellement senti très très proche d'une personne quand j'étais en Guadeloupe.
Ok. Alors comment tu t'occupais ?
Alors, les livres, les jeux vidéo, quoi d'autre ? Tout ce qui était fantastique, en fait, tout ce qui pouvait me permettre de m'évader, de partir de la Guadeloupe pendant quelques heures, c'était mon jeu préféré.
Ah ouais, c'est vrai. Donc en fait, tu essayais de t'évader, quoi.
Absolument. Absolument. Pour moi, tout ce qui était fantastique, donc comme je disais, les livres, les jeux vidéo, les séries même, surtout, c'était vraiment le meilleur moyen en fait de m'évader, de ne plus être en Guadeloupe pendant un petit moment. Et du coup, ça me permettait de rêver, de supporter la situation.
Tu lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup ?
Je lisais énormément.
Oh mon Dieu, une drag queen qui lit.
On est quatre en France, mais...
Oh mon Dieu, et j'en ai une. Ah, il y a Coco Ricard qui dit... elle lit aussi ? Ok, très bien. C'est déjà ça. C'est déjà une lecture.
Elle lit les images.
Voilà.
Les page people.
Ouais. Donc tu lisais quoi alors ? Une centaine de livres par an.
Une centaine de livres par an. Petite anecdote. Pendant les 4 années du collège, ils ont créé un prix, et je suis presque sûr qu'ils l'ont créé pour moi, qui était le prix du meilleur lecteur du collège.
Wow.
Et du coup, ils me remettaient un petit ruban et les autres élèves se moquaient de moi à chaque fois. Ça, c'est pas mal.
Meilleur lecteur du collège.
Meilleur lecteur du collège. C'est-à-dire que c'est moi qui sortais le plus de livres du CDI 4 ans de suite.
Waouh. Bah, félicitations.
Elle casse des records.
Franchement.
Elle casse des records.
Franchement, je suis très, 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 très impressionné.
Merci.
Et du coup, ce petit ruban, c'était vraiment un petit ruban. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une médaille,
non,
un truc.
Vraiment juste un petit ruban.
C'était un lacet.
Je pense. Okay. À mon avis, c'est le proviseur qui pétait un lacet pendant l'année. Il prenait l'autre, il faisait un nœud, il me le donnait. J'étais content, ils étaient contents.
Et alors, parmi tout ce que tu disais, parmi, on va dire, toutes ces œuvres fantastiques, qu'est-ce qui t'a le plus plu, passionné et permis de t'évader ? Quel univers ?
Alors, à l'époque, c'était tous vraiment les univers fantastiques, donc Harry Potter, parce que bon, c'était une autre époque, l'auteur ne parlait pas encore publiquement.
Ouais, oui. Mais comme disent certains ou certaines, l'œuvre d'Harry Potter a été reprise par ses lecteurs et n'appartient plus à son autrice, qui a des propos un peu
voilà. Compliqués.
C'est ça. Non, je suis absolument d'accord. Aujourd'hui, l'œuvre d'Harry Potter, telle que je m'en souviens en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a permis à beaucoup de jeunes queers en plus de s'évader, de trouver un autre monde, et qui nous a permis de nous rapprocher en plus. Il y avait aussi la saga Tara Duncan, qui pour le coup est beaucoup plus ouverte, qui a un univers beaucoup plus étendu. Narnia évidemment, Le Seigneur des Anneaux, bref. Toutes ces choses, cape, épée, ogre et chevalier.
Ok. Et du coup, j'avais une autre question. Est-ce que t'écrivais aussi? Parce que c'est bien beau de lire, mais j'imagine que quand on lit 100 bouquins par an et qu'on est le préf du CDI tellement qu'on a l'impression que la personne bosse là-bas, j'imagine que tu devais avoir aussi un peu d'envie d'écriture.
Alors, j'avais énormément envie d'écrire, au point où j'ai écrit des fanfictions sur Harry Potter quand j'étais adolescent.
Incroyable.
J'en ai peut-être une dizaine cachées au fin fond d'un ordinateur. Et ça ne sortira jamais, je tiens à le dire.
Comment?
Alors...
Pourquoi?
Parce que c'est très mauvais, déjà.
Tu peux pas te juger.
Ah si, je peux juger, tout à
fait. Non.
C'était écrit par Pré-Aphrodite, c'était écrit par Clyde, il avait 14 ans, il faisait des fautes d'orthographe tous les trois mots.
Ah, mais ça, c'est mignon aussi, c'est tendre.
Ouais, c'est surtout très gênant.
Ah bon?
Un peu quand même.
Et alors, t'avais écrit des fanfictions sur quoi?
Alors, j'ai écrit des fanfictions sur Harry Potter, j'aimais bien mélanger justement ce que je connaissais et le monde d'Harry Potter, donc... c'était Harry, Ron et Hermione qui allaient dans un lycée normal, ou c'était Harry, Ron et Hermione qui découvraient les réseaux sociaux. C'était pas mal de types de trucs comme ça. J'aimais bien mélanger les deux univers. Encore une fois, c'était pas très bon, mais ça me faisait plaisir.
Franchement, moi, j'ai envie d'acheter les droits de ces fanfictions.
Peut-être un jour.
Peut-être un jour, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une pépite qui se cache là-dessous. Vraiment. Tout à l'heure, tu disais que voilà, c'était un peu compliqué avec les enfants qui avaient ton âge. Comment tu réussissais à répondre et à survivre à ça et aux moqueries un peu du quotidien?
Alors, c'était clairement, je pense, comme beaucoup d'adolescents gays, comme beaucoup d'enfants queer, l'humour. Très tôt, j'ai découvert que avoir une bonne répartie, ça empêchait de se faire casser la figure. Que si on rigolait avec quelqu'un qui se moquait de soi, en fait, la personne avait plus tendance à se calmer plutôt qu'à continuer à s'énerver. Et je pense que ça a beaucoup bâti ma personnalité jusqu'à aujourd'hui. Dans des situations compliquées, je préférais rire ou trouver une blague plutôt que de m'apitoyer sur moi-même ou paniquer.
Et donc, t'as gardé ça tout le temps ?
Oui, absolument. Jusqu'à aujourd'hui.
Comme tu disais tout à l'heure, en fait, donc t'as grandi en Guadeloupe, t'es venu à Lyon quelque temps, puis t'es reparti en Guadeloupe. Quand est-ce que tu es revenu à Lyon, et quand est-ce que t'as vraiment quitté la Guadeloupe pour venir faire des études? Et déjà, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu serais grand?
Alors, quand j'étais adolescent, justement, grâce à toute cette lecture, tous ces livres, ces séries, j'ai rapidement eu envie de devenir prof d'anglais. J'avais envie de partager un petit peu tout cet univers que j'avais bâti avec des élèves. Et j'adorais la langue anglaise. Du coup, je suis venu à Lyon pour faire des études de langue, littérature étrangère. Alors au final, la vie a fait que je n'ai pas pu continuer. J'ai dû arrêter en deuxième année et j'ai dû commencer à travailler. Mais du coup, je suis venu à 18 ans. C'était en 2015.
Ok, et du coup, venir habiter dans l'Hexagone, est-ce que c'était une libération pour toi ?
Pour moi, c'était vraiment une libération queer. C'était qu'à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où j'ai posé le pied à Lyon, j'ai plus eu besoin de me contrôler quand je marchais, que je roulais des hanches, ou que je parlais, que je bougeais les mains, ou que je levais les yeux au ciel, ou que j'avais une expression un peu trop efféminée. À partir de ce moment-là, j'ai pu arrêter de contrôler tout ce que je faisais. Et c'est vraiment un poids qui m'est sorti des épaules.
Parce que jusque-là, tu maîtrisais complètement, on va dire, ta corporalité dans l'espace public, en permanence.
Absolument, en permanence. C'était quelque chose auquel, au final, je ne réfléchissais même plus, mais qui était toujours, en arrière-plan dans mon esprit. Tiens-toi droit, ne marche pas comme ça, ne fais pas ceci, n'utilise pas telle expression. Faut pas que ta voix monte, faut pas que ta voix descende. Il faut tout le temps garder un ton assez monotone pour pas comment dire que les gens remarquent que tu es différent.
J'imagine que ça doit être une sacrée pression au quotidien d'être toujours dans le contrôle.
C'est vraiment que très récemment que j'ai remarqué à quel point j'avais commencé à lâcher prise et que j'étais. Et qu'au final, ça m'avait bousillé pendant des années. Je pense que même physiquement, ça m'a créé des problèmes de dos, des tensions musculaires. Parce que pendant toutes ces années, je devais contrôler et faire attention à la moindre chose que je disais ou que je faisais.
Ok. Et qu'est-ce que ta vie à Lyon a changé en plus de ça? C'est-à-dire, est-ce que ta manière de t'habiller a changé? Tes rencontres aussi ont changé? Est-ce que... Enfin, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ton arrivée à Lyon?
Alors, mon arrivée à Lyon, au niveau du vestimentaire, je pense que j'ai pas tellement changé. J'ai toujours eu le style vestimentaire de Blaine dans Glee, bon ou mauvais.
Ok, waouh. Ah ouais, ok, très bien, je l'ai.
J'ai porté des nœuds papillons très longtemps.
C'est vrai?
C'est vrai, j'en ai encore une collection. Pareil, ça sortira pas.
Incroyable.
Au niveau des relations, en arrivant à Lyon, j'ai rencontré mon copain. Maintenant, ça fait 8 ans. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé en août et je crois que je l'ai rencontré en octobre. Il m'a pas vraiment laissé le temps de découvrir le monde tout seul. Je pense que ça a été ma plus belle rencontre aujourd'hui. C'est vraiment la personne sur qui je me repose et qui m'aide au quotidien.
Est-ce que aussi le rencontrer à ce moment-là, un moment où tu te permettais aussi de te découvrir plus et de te développer plus, en fait, ça a été vraiment une rencontre un peu déclic, un peu constructive à toi, à ta personnalité, à ce que tu es aujourd'hui?
Vraiment, avec Léo, je me suis pas mal construit, mine de rien. Je l'ai rencontré, j'étais encore un enfant, j'avais 18 ans. Et en fait, on a grandi ensemble, on a découvert pas mal de choses qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas ensemble. Et vraiment, ça a été... je pense qu'aujourd'hui, si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Je suis même pas sûr que je serais en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui.
Il t'a donné du courage, il t'a donné quoi?
Absolument, il m'a donné du courage, il a cru en moi. Ça a été la personne, même pour le drag, qui m'a convaincu de faire les premiers gigs. C'était la première personne qui m'a dit tu devrais faire cette chanson, porter cette tenue. Ça a vraiment été grâce à Léo que j'ai pu me construire.
C'est un moteur.
C'est vraiment un repère pour moi.
La construction artistique à deux, je trouve ça hyper chou et hyper mignon.
C'est vrai qu'en plus, nous, on a une relation assez, assez drôle, puisqu'au final, moi, je fais du drag de mon côté. Léo, il a ses propres projets liés au drag. Même s'il n'en fait pas, il côtoie énormément ce monde. Et c'est vrai qu'on a vraiment trouvé quelque chose qui nous passionnait tous les deux, mais à différentes échelles, ce qui fait qu'on ne marche pas l'un sur l'autre au final. Donc c'est vrai que le drag a vraiment été très bénéfique pour nous, je pense.
Il en fait pas, j'ai vu des stories il y a quelques mois, semaines.
Alors, Léo ne fait pas de drag, mais Léo rêve d'être mis en drag. Donc il adore qu'on s'occupe de lui, mais lui n'a jamais touché à un liner de sa vie.
Ah ouais. Et c'est compliqué. Un beau liner.
C'est compliqué. On verra un peu plus tard dans l'interview, mais un beau liner, c'est pas facile. Ouais. Ouais, c'est vrai. Coco Ricard doit maquiller Léo, mais c'est une femme occupée. Et après, c'est pas la plus talentueuse non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a envie?
Oh, bah, génial, merci.
Ce qui est bien, c'est qu'avec ta voix, Coco, on t'entend très très bien dans le micro. T'arrives à sortir du brouhaha.
Ah mais je sais, au Stade de France,
on
n'entend
que moi.
Madonna niçoise version drag.
Madonna la niçoise.
On adore. On adore. Ouais. Je lui dirai, t'inquiète.
Merci.
Tout à l'heure, tu disais qu'au bout d'assez peu de temps, en fait, t'as arrêté tes études pour te mettre à travailler. Pourquoi tu n'as pas pu poursuivre ça?
Alors, c'est clairement financier. Quand j'étais en études, au final, je me suis retrouvé à 8000 km de mes parents, donc ils ne pouvaient plus me soutenir financièrement. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Donc, même moi, je n'osais pas forcément leur demander de l'argent parce que je savais qu'il y avait encore mes frères et sœurs. Je savais que c'était assez compliqué pour eux. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvé dans une situation où clairement, j'étais extrêmement précaire. Je ne savais pas ce que j'allais manger le lendemain. Je sautais des repas tout simplement parce que j'étais obligé. En fait, je savais que là, j'ai payé mon loyer. Il me reste 40 euros pour faire des courses. pour tout le mois et il faut que ces 40 euros ils durent 30 jours. C'est une période qui a été plus que compliquée, j'arrivais pas à me concentrer sur mes études à juste titre. Donc au bout d'un moment j'ai juste arrêté, j'ai trouvé un boulot et à partir de là bah, j'ai enchaîné les boulots, j'ai changé à chaque fois jusqu'à aujourd'hui où bah, je suis conseiller bancaire, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que j'ai malheureusement dû arrêter ce que j'avais vraiment envie de faire.
C'est-à-dire que sur le moment, tu pouvais même plus te nourrir, même plus t'acheter à manger.
C'était très très compliqué. Pour pas que les autres élèves à la fac se rendent compte d'à quel point ça n'allait pas, j'amenais un tuperoir à la fac et je faisais semblant d'oublier mes couverts. Comme ça, bah, en fait, je laissais le tube au frigo et je disais non mais c'est pas grave, j'ai pas faim de toute façon. Et ça, je le faisais peut-être 2-3 fois par semaine. C'était toujours essayer de garder les apparences, mais faire bien 50 kilos pour 1m80 à 19 ans.
Et le fait du coup que tu arrêtes tes études et que tu fasses, on va dire, un choix de raison plutôt qu'un choix de cœur, c'était pour éviter de retourner en Guadeloupe ?
Absolument. Parce que malgré le fait que j'étais dans cette précarité, je préférais la précarité au manque de liberté que j'avais en Guadeloupe. Et je savais que si je retournais là-bas, bah, je le vivrais comme un échec, mais je pense que mes parents auraient été aussi déçus de me voir revenir aussi rapidement. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais envie de voir dans leurs yeux.
Et en trouvant du travail, t'as fait quoi comme petit boulot? Et est-ce que du coup, ça t'a permis, ça a permis à ta vie de changer?
Alors, j'ai commencé en tant que vendeur à Primark. Donc c'était ce que c'était. Au final, aujourd'hui, je regrette pas du tout ce boulot. J'ai rencontré des gens absolument géniaux. Mais c'était voilà, des réveils à 6 heures du matin, tirer des palettes dans le froid. C'était pas génial. De là, j'ai commencé à bouger. J'étais dans des magasins de bijoux, dans des magasins de chaussures. Et puis un jour où j'en pouvais vraiment plus, je me souviens m'être fait la réflexion qu'en passant d'un centre commercial à un autre, je voyais enfin le soleil, parce qu'avant, je ne voyais pas le ciel. J'ai trouvé un travail dans un bureau où j'ai une fenêtre en face de mon bureau. Pour moi, ça, c'était l'ascension sociale. C'était vraiment... j'ai enfin réussi quelque chose.
Tu voyais le jour.
Je voyais le jour. Je n'étais plus au sous-sol. Sans dire que j'ai un boulot qui fait rêver, mais aujourd'hui, j'ai un travail qui me permet de faire ma passion à côté, de partir en voyage, et pas juste d'avoir 40 euros par mois pour faire des courses.
Et justement, à Lyon, parce que maintenant, tu y es depuis 8-9 ans, ça fait quoi d'être pleinement soi ?
Aujourd'hui, je peux dire que ça libère un poids. Hein. Je me sens beaucoup plus léger, je me sens beaucoup plus libre de moi-même. Je sens enfin que j'arrive à découvrir qui est Clyde, en fait.
Eh bien, après avoir découvert qui est Clyde, on va découvrir qui est Aphrodite Amour. Mais ça, c'est juste après les questions de Mia, où tu nous expliqueras tout ça. Mais en gros, pour faire un petit teasing, parce que j'aime bien faire des teasings, on va dire que d'un coup, tu vas découvrir le make-up, qu'ensuite, tu vas te maquiller un petit peu plus, que tu vas rencontrer une gagnante d'une certaine saison de Drag Race, RuPaul's Drag Race US, qui va te dire, mais arrête de faire ça dans ta chambre, sorte chez toi et va sur scène. Et c'est à ce moment-là où vraiment tu vas te mettre au drag. Ouais, je sais, c'est vraiment un teasing putassier. Mais avant ça, c'est les moments des questions de Mia. Mia, c'est mon assistante éditoriale, elle est là, elle se pose des questions, elle est allée enquêter sur toi et sur tes réseaux sociaux. Du coup, elle a des questions, mais avant tout, maintenant, Mia, elle a même ce qu'on appelle un générique.
Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question.
Eh bien, bonjour Mia et bienvenue à Mia Question, comme elle le dit elle-même. Une première question pour notre amie Aphrodite.
T'aimes bien t'habiller de couleur ?
Alors, clairement, oui. Aphrodite en noir, c'est pas vraiment ce qu'on voit le plus. On est plutôt sur des couleurs sobres et délicates telles que le rose fuchsia ou le violet.
Parce que Mia, alors elle avait énormément de questions sur toi, donc du coup il a fallu que je fasse une sélection, mais elle était prolixe. Vraiment ton compte Instagram, là, l'a vraiment inspiré. Une nouvelle question de Mia.
Alors, Aphrodite, AFRO comme un afro, car je suis non pas noir mais joli. et amour parce que...
C'est très drôle.
Et amour, merci. Amour parce que je voulais très, tout simplement une allitération avec Aphrodite, quelque chose de positif et qui rappelle mon nom, tout simplement.
Ok. Et donc, quand tu dis que tu t'appelles Aphrodite Amour, quand tu t'appelles Aphrodite Amour, est-ce que c'est aussi pour dégager, je sais pas, quelque chose de chaleureux?
Bien sûr, c'est ça. Je voulais un nom qui rappelle le drag que je fais, donc en fait quelque chose de chaleureux, quelque chose d'agréable, quelque chose qui donne envie de sourire.
Et on est passé par quelles étapes en termes de nom? Est-ce que ça a tout de suite été Aphrodite Amour ou est-ce qu'il y a eu un processus déjà de recherche de nom?
Alors, il y a eu quelques noms atroces avant, donc on a eu Head Over Heel, qui est un jeu de mots, mais du coup c'était en anglais, je me suis dit, bon, tu fais du drag en français.
Je comprends pas ce jeu de mots, quel est ce jeu de mots?
Head Over Heels.
Ok.
Donc tomber en fait.
Ah.
Okay. Voilà. Tout simplement.
Bah,
mais
non
c'est
mais
nul.
Au moins, bah voilà, ça le mérite de pas exister.
Voilà.
Donc
hein,
suivant.
On a eu Clyde et Chat, qui est juste Clyde mais avec une féminisation, donc c'est également très très nul.
Clyde et Chat.
Clyde et Chat.
Ah. Voilà. Comme Clyde et Chat.
Exactement. Oh,
okay.
Voilà.
Parce que moi ce que j'avais compris c'était Clyde et Chat, tu vois, et un chat.
Ah non Clyde et Chat. Ouais,
ok.
C'est... Non c'est encore plus nul
okay.
que c'est, okay. C'est atroce.
Très bien.
Donc il y a eu Clyde et Chat. Je pense que c'était les deux principaux. Hein. Ah non, si, il y a eu Nayanka la pointe. Parce que la pointe, c'est une ville en Guadeloupe.
Okay.
Enfin, Pointe-à-Pitre, mais au créole, on dit la pointe. Et du coup, je me suis dit que oui, ça pourrait être sympa, ça rappelle mes origines, mais en fait, c'est juste moche.
Non, mais tu vois, au final, hein, on a bien fait d'arriver assez rapidement à Aphrodite Amour.
Oui.
Nouvelle question de Mia.
Merci, très bonne question. J'en ai très très peu. Je crois que j'ai 5 perruques, pas plus. Parce que je suis très 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 difficile. Et que les meilleures perruquiers ne sont jamais disponibles.
Ok, et du coup, tu fais des perruques qui ressemblent à quoi alors?
Alors, pour moi, une belle perruque, elle est très généralement blonde et dorée. Et elle touche le ciel.
Blonde et dorée, et elle touche le ciel. Ok. C'est poétique, tu vois. C'est ça, en fait, une drag queen qui lit.
Un tout petit peu de culture.
Est-ce que t'aimes faire du sport?
Je fais beaucoup de sport, effectivement. Alors, un petit peu moins depuis récemment, parce que Aphrodite prend de la place dans mon emploi du temps. Mais jusqu'à très récemment, pourquoi pas.
Ok. Quelqu'un est décédé, très certainement, mais honneur à la personne.
RIP.
Donc, tu disais, le sport?
Alors, je fais, jusqu'à très récemment, je faisais beaucoup de sport. J'allais à la salle de sport, donc de la musculation en salle 5 fois par semaine, depuis 6 ans maintenant. Donc oui, Aphrodite est une déesse aux bras de fer et aux gants de soie.
Et quand t'allais au sport, qu'est-ce que, dans le fond, tu recherchais avec le sport? C'était te modifier physiquement? C'était te viriliser? C'était avoir un nouveau physique? C'était quoi?
C'est exactement ça. En fait, c'était avoir un peu plus ce physique d'Apollon avec Cocoré Claire qui se marre à côté.
Là, on est vraiment sur les drag queens go-muscu. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on a une brochette.
La salle. Eh ben, il faut savoir que Coco Ricard, la salle. Mais c'est qui son coach? Eh ben, c'est Aphrodite Amour.
Mais non.
Ah, si.
C'est...
Incroyable.
C'est moi qui lui ai donné. Ouais. C'est moi qui lui ai donné toutes ses astuces pour avoir des pecs. Donc, si vous voyez Coco Ricard avec un décolleté, eh ben, c'est grâce à moi.
Incroyable. Bon, et ben je vais choisir aussi le même coach.
Donc oui. C'était clairement pour me viriliser parce que je savais que j'étais un peu efféminé et que j'allais plaire un peu plus si j'étais plus musclé. En même temps, il y a eu ce truc où tout de suite après avoir commencé à travailler, j'ai pu recommencer à manger. Et du coup, j'ai pris du poids assez rapidement et je reconnaissais plus mon corps. Donc pour moi, la salle de sport, c'était vraiment un mélange. Donc ce côté reprendre mon corps, enfin me réapproprier mon corps plutôt, et me viriliser, me sentir beau à nouveau.
Ok. Et tu sens que dans la société dans laquelle on vit, c'était soit au moment où tu l'as fait, soit encore en ce moment, mais avoir une certaine virilité ou un certain physique, est-ce que c'était plus important dans ton regard ou dans le regard des autres?
Dans le regard des autres, clairement. C'était important pour moi, mais j'ai tellement vu une différence entre il y a quelques années où j'étais twink, clairement, Et aujourd'hui, où je fais deux fois le twink moyen, il y a clairement une différence de traitement, que ce soit par des inconnus dans la rue ou même par la communauté LGBTQ+.
Mais à quel niveau? C'est dans la manière dont on te parle? C'est dans... c'est du coup t'es plus séduisant entre guillemets?
Je suis plus séduisant entre guillemets. On m'approche beaucoup plus. Je me sens... Alors ça, c'est le... quelque chose qui... Comment dire? Pour lequel je suis assez... c'est assez rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais partie de ces personnes queer qui n'ont jamais vécu une agression ou même un regard dans la rue. Et je sais très bien que c'est parce que j'ai une certaine carrure, j'ai une certaine... je suis un peu plus imposant que la moyenne. Donc c'est vrai que ça m'a protégé. Aujourd'hui, avec mon copain, on peut se tenir la main dans la rue et on va jamais nous faire une remarque. Donc oui, ça a été du positif, que ce soit par les autres, mais également par notre communauté, où clairement j'ai senti que j'étais beaucoup plus attirant.
Une nouvelle question de Mia.
Est-ce que tu as un sapin de Noël chez toi ?
J'ai un énorme sapin de Noël chez moi. Il est plus grand que moi, le sapin doit faire 2,20 m. Oui, oui, j'ai un sapin avec mon copain, on est obsédé par Noël.
Ah ouais?
Oui, on a une tradition qui est que chaque année, on achète une nouvelle décoration. Et le jour où on sera très vieux, le sapin sera composé entièrement de décorations qui représentent notre année. Mais oui, on adore la période des fêtes et on adore avoir un sapin immense.
Eh bien, très bien. Mia, est-ce que tu as une question ou est-ce que c'était la dernière question? C'était la dernière question, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mia. Merci pour toutes tes questions.
Merci, Mia.
À bientôt.
Salut, c'était super. je vais être une bonne soirée.
Eh bien, merci. Bonne soirée à toi aussi, Mia. Et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Donc, avant l'interview de Mia, on est arrivé justement au moment où... tu commences à découvrir un petit peu le maquillage. J'ai fait un teasing incroyable sur le fait qu'on ait parlé d'une queen de RuPaul Drag Race qui a gagné la saison. Qui t'a dit de faire du drag? Mais avant tout ça, comment tu t'es mis à te maquiller et pourquoi? Pour quelle raison?
Alors, j'ai commencé à me maquiller tout simplement pour cacher des imperfections, cacher un bouton par-ci par-là. J'ai rapidement découvert que j'aimais vraiment bien ça. Donc je faisais un petit beat naturel.
Tu faisais quoi? C'était quoi un peu?
Alors c'était le teint, c'était un petit peu de blush, un petit peu de concealer et un petit point lumineux au coin des yeux. Donc juste un petit highlighter. Et je me suis rendu compte que je me sentais vraiment bien comme ça, que je me sentais beau. Et puis c'était aussi un moyen de regagner cette féminité aussi. Ça c'est quand je travaillais en magasin. J'adorais faire ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire un peu plus de maquillage plus drag. Donc à me maquiller les yeux, à acheter des rouges à lèvres, plus de fard, à découvrir un petit peu tout ce que je pouvais faire avec du maquillage. Bon, alors c'était...
Oh non, Cocorica n'a plus de batterie.
Cocorica n'a plus de batterie.
Elle se maquille dans le noir. C'est peut-être... Oh non,
non.
C'est bon. Et là, ça rallonge. Ça repart.
Cocorica se maquille dans le noir. Et ben, on a... Toujours pas vu ce qu'on
devait
voir. Si tu te maquilles dans le noir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Vas-y, essaye de voir. Ça va rigoler, je pense.
Elle va plus jamais me book. Elle va plus jamais me
book. Je suis désolé, pardon. Attention, ça revient. Ça revient. Attention, elle est repartie. Elle est repartie, c'est
la lumière.
Oh là, ce stress. Ce stress.
Ouais, crap.
Et ce make-up, on va dire, de jour pour sortir, pour aller travailler, ça te permet quoi? Ça te permet de te sentir bien, à l'aise? Qu'est-ce que ça te procure?
Alors, immédiatement, ça me permet de me sentir, de faire une fantaisie, en fait, de faire un pied de nez à toutes ces années où je devais me contrôler, où je devais être le moins féminin possible. Immédiatement, je réalise à quel point je peux m'exprimer artistiquement parlant. Et du coup, c'est pas très très régulier, c'était peut-être 2-3 fois par an, mais j'avançais pas très très vite et j'étais très très laide. Mais comme toutes les drag queens vous le diront, la première fois que tu te mets en drag, t'es la plus belle créature du monde, peu importe ce à quoi tu ressembles.
Mais ce maquillage féminin ou féminisant ou genré de manière féminine, c'est venu avant ou après que tu aies découvert ce qu'était le drag et les drag queens?
Alors j'ai découvert ce qu'était le drag et les drag queens en 2017, donc je savais déjà ce que c'était. C'est simplement que j'osais pas encore parce que je me disais ça a l'air super fun mais j'arriverai jamais à faire ça. Mais il y avait quand même cette volonté de reproduire ce que je voyais, parce que je voyais RuPaul's Drag Race, tout simplement. Je voyais ces énormes perruques, je voyais que ça brillait dans tous les sens, qu'elles avaient l'air... Parce que quand on commence Drag Race, et qu'on est très jeune, on a l'impression que c'est des super-héroïnes. On a l'impression qu'elles font quelque chose qui est quasiment impossible à réaliser, parce qu'elles le sont, elles sont très talentueuses. Et du coup, j'avais un petit peu ce fantasme. Je me disais, peut-être qu'un jour, moi aussi, je monterais sur scène avec... les talons et les froufrous et le boa. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'irréalisable.
Si je comprends bien, en fait, c'est plus que performer le genre, la féminité, etc., il y avait un côté un peu vivre la fantaisie qu'elles ont l'air de vivre à travers justement leur look, femme, tout ça, leur perruque, leur wig. En fait, il y avait une sorte d'amusement qui avait l'air de t'attirer.
Absolument, absolument. Il y avait déjà le côté scène. Le côté monter sur scène, avoir de la lumière qui brille dans le visage, je trouvais ça incroyable. J'avais absolument envie que ça soit moi. Pour moi, c'était une manière de se déguiser, mais tout en restant moi et en faisant ressortir une partie de moi qui m'avait un peu manqué au final.
Donc, en gros, tu fais ça chez toi et tu sors pas ? C'est-à-dire que c'est juste des petits tests de make-up à la maison et ça s'arrête là ?
À la maison, je prenais mon pinceau, je faisais, je faisais un look, puis un autre, et je prenais une photo, je la postais nulle part, et ensuite je me démaquillais.
Ok. Et c'était quoi le but ?
C'était vraiment juste, quelque part, d'apprendre, parce que je me disais, je vais pas sortir comme ça, où je suis pas forcément satisfaite de mon make-up, où j'ai pas les plus belles perruques, les perruques d'AliExpress, j'avais pas de tenue adéquate, j'avais pas de talons non plus, parce que j'en trouvais pas, je savais pas où en acheter à l'époque. Donc c'était vraiment juste pour me faire plaisir. Et il a fallu attendre 2022 pour que je sorte en drag pour la première fois.
Et alors, justement, qu'est-ce qui t'a incité à arrêter le... Parce que ça fait... Du coup, c'est-à-dire que t'as passé quasiment 4 à 5 ans à te maquiller chez toi sans sortir.
On y arrive enfin. Pourquoi j'ai commencé? Tout simplement, petite histoire. Alors, j'étais à Paris avec mon copain début d'été 2022. Et en passant devant un bar, le Red, on tombe devant Miss Venji et Jada Essential.
Qui sont deux queens de Drag Race US.
Drag Race US, qui ont une popularité énorme. On s'est arrêté pour demander une photo et elles nous ont proposé de passer la soirée avec elles. Je sais plus quel moment, mon copain dit « Mais Clyde, il fait du drag, regardez !» Et il sort une photo. Et là, les deux me regardent et elles me disent « Mais t'as du potentiel, donc tu vas arrêter de faire ça dans ta chambre, tu vas commencer à demander autour de toi et tu vas sortir et tu vas faire du drag en public. » Et ça a été un déclic, c'était fou. Je me suis dit « Bon, si des personnes comme ça me disent de le faire, peut-être qu'il y a quelque chose. » Donc de là, je me suis un peu plus ouvert au monde du drag lyonnais. J'ai découvert Vazek, ma drag mom, qui a été incroyable. Qui m'a proposé ma première scène et depuis, je me suis jamais arrêté.
Sans cette rencontre, tu penses qu'il aurait fallu encore plus de temps avant que tu sortes de chez toi ou peut-être que tu serais jamais sorti de chez toi ?
Honnêtement, sans cette rencontre, je pense qu'aujourd'hui, soit j'aurais fait mes premières scènes maintenant, soit j'aurais juste jamais commencé. J'aurais jamais osé. Je pense qu'il me fallait vraiment un déclic, peut-être de cette personne que j'admire, parce que Jada, c'est quand même une des drag queens que j'admire le plus aujourd'hui. Je pense que sans ce déclic, j'aurais jamais su que je pouvais.
C'est quand même chic. Hein.
Merci.
C'est quand même chic, c'est quand même classe. Voilà, qu'une gagnante de RuPaul Drag Race te dise vas-y, en fait, pourquoi tu le fais pas, sors de chez toi. C'est quand même, ça arrive pas à tout le monde.
Non. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et puis, en plus, après Jada est restée en contact avec nous. On s'est revus quelques fois depuis. Et c'est vrai qu'elle a toujours été extrêmement... c'est quelqu'un qui supporte beaucoup les gens, qui est très, très ouvert aux gens et aux fans, du coup. Et c'est vrai que je pense que je lui dois beaucoup aujourd'hui.
Elle le sait ?
Je sais pas si elle sait à quel point je fais du drag aujourd'hui, mais elle sait que je fais du drag parce qu'on s'est revus depuis et elle a continué à m'encourager dans cette voie. J'ai essayé plusieurs de ses perruques.
Oh !
Des perruques de Jada Essence.
Ouh.
Rien que ça.
La personne est chic.
La personne est chic.
Qu'est-ce que le drag te procure ?
Alors aujourd'hui, le drag, pour moi, c'est vraiment cette sensation de liberté quand je suis sur scène, de proximité avec les gens. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, que j'ai toujours aimé, la proximité avec les gens, rencontrer les gens, faire dégager une émotion. Et avec Aphrodite, ça me permet de faire ça, tout en conservant Clyde, tout en conservant une certaine pudeur. Et c'est un petit peu comme si j'avais ma propre identité secrète au final. Comme si j'étais un petit peu un super-héros qui fait passer un bon moment 10 minutes par semaine à un groupe de personnes et ensuite qui retourne dans son anonymat.
T'aimes ça, ce on va dire, ce rôle de super-héros, ça te plaît ?
J'adore. Pour moi, quand les gens viennent me dire « J'adore tes performances, on se sent bien quand on te regarde », c'est rassurant, c'est la meilleure chose au monde. C'est vraiment le rapport avec les gens qui me plaît le plus dans le drag.
Si on devait fermer les yeux, t'écouter, nous décrire Aphrodite Amour, elle ressemble à quoi ?
Aphrodite Amour, c'est ta drag tante. Hein, c'est une tantine, c'est une diva. Si on ferme les yeux et qu'on entend Aphrodite Amour, en général, ça fait clin, 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 parce qu'il y a du bijou qui bouge de partout.
Ça fait gling-gling.
Ça fait gling-gling. Il y a de la grosse perruque, il y a du sequin, il y a du brillant. Pour moi, Aphrodite, c'est vraiment ce type de drag qui est très réconfortant. Comme tu disais, c'est ta diva de proximité.
On a tous besoin d'une diva de proximité.
On a tous besoin d'une diva dans le Vival d'à côté.
Ouais, trouvez bientôt toutes vos drag queens préférées dans votre Vival d'à côté.
Ah, je leur souhaite pas.
Et quelles sont tes inspirations en drag ? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, connues ou moins connues ?
Alors, ma première inspiration en drag, c'est évidemment ma mère. Oui, Coco, toi aussi. C'est évidemment...
Quelle inspiration ? Comment être inspiré par Coco ?
Comment ne pas être inspiré par Coco ?
Ouais. Si tu devais être inspiré par Coco sur quelque chose, tu lui prendrais quoi ?
Ses grosses perruques, sa bam bam. Ouais. Coco a une wig que j'essaie de lui voler depuis longtemps maintenant. Hein. Ah ouais. Une wig plus grosse qu'elle, et elle veut pas me la laisser. Merci. Avec un wig cap.
Et franchement, c'est sympa. Un petit lot comme ça, des familles. Merci Coco.
Bah oui, parce que tu dis des familles, mais Coco Ricard, c'est ma tante, puisque c'est la sœur de Vazek. Mais après, Coco, c'est la sœur de tout le monde.
donc on a bien compris. Donc tes inspirations, il y a Coco, clin d'œil.
Coco, oui. Il y a ma mère, la vraie, ma mère biologique.
Ta mère ?
Ma mère est une diva de proximité, une diva de l'église d'à côté, hein, qui a une personnalité incroyablement pétillante. C'est la personne qui parle le plus fort dans toutes les pièces. C'est la personne qu'on ne rate pas. Ma mère a eu son époque en 2012 où elle changeait de couleur de cheveux tous les mois. Donc elle a eu les cheveux roses, bleus, verts, violets et j'en passe.
Incroyable.
Elle a des perruques, elle a une tenue pour chaque occasion, une paire de talons pour chaque occasion. Ma mère, c'est la première drag queen que j'ai connue.
Et tu savais que ta mère, c'était une drag queen avant de savoir ce qu'était... Enfin, je sais pas, avant de découvrir RuPaul Drag Race, par exemple ?
Pas du tout. Pour moi, ma mère, c'était juste une femme un peu extravagante. Bon, alors, j'essayais ces perruques quand j'étais petit. J'adorais jouer dans ces perruques. Je sais pas si elle est au courant jusqu'à maintenant que je jouais avec ces perruques.
Tu jouais avec ces perruques ?
Je jouais avec ces perruques, elle en avait plein. Elle en avait vraiment des dizaines et des dizaines. Je me souviens que quand j'étais petit, une fois, ma mère était en retard pour me chercher à l'école. Et on m'a demandé à quoi elle ressemble ta maman. Et j'ai dit, bah ce matin, elle était blonde. Et elle est arrivée et elle était rousse.
C'est très très drôle.
Ça a été ma mère toute mon enfance. Mes tantes, évidemment, puisqu'elles sont toutes comme ma mère. J'ai une tante que ma mère appelle Barbie, tellement elle a un niveau élevé. Elle, pareil, je l'ai vue cet été. Et puis je sonne chez elle, elle ouvre la porte et elle porte une combinaison moulante noire. Elle a une perruque blonde à franges noires, Elle a un rouge à lèvres noir, full face, full make-up. Et wow. Je lui dis, je te dérange, tu es allée quelque part? Et elle me répond, bah non, pourquoi?
Ah ouais, en fait, pour elle, c'était juste un mardi.
Pour elle, c'était juste un mardi. Pour elle, c'était juste sa tenue pour faire la vaisselle. Talon de 12 cm, parce que pourquoi pas.
Oh, incroyable. Donc, en fait, au final, c'est un peu en découvrant le drag, d'un coup, t'as pris aussi un peu conscience de ta vie et de l'univers dans lequel t'as vécu. Et en fait, t'as eu des drag queens autour de toi tout le temps.
Absolument. J'ai grandi avec des drag queens, avec des personnes extravagantes, avec des personnes qui aimaient se faire remarquer dans la rue, clairement. Et puis, j'ai toujours eu cette passion pour les divas des années 60, 70, 80. Donc, Aretha Franklin, Diana Ross, Tina Turner... Toutes ces divas à grosses voix, les femmes noires d'influence, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Et aujourd'hui, ben, je suis un peu devenu tout ça.
Comment tu as fait ton coming out gay et drag à ta mère?
Alors, les deux ont été très différents, dans le sens où mon coming out gay, je l'ai fait une première fois à 14 ans, et ma mère a refusé. Donc elle m'a dit non, et elle m'a mis dans une école religieuse. Oui, elle m'a juste dit non.
Ah bah voilà. En fait, c'est simple. On n'y pense pas assez. On n'y pense pas.
Oui, parce que et si tu refuses...
Même pas non merci, juste ouais, non.
Non, juste non.
Ah ok.
Elle a juste refusé. Hein. Du coup, bon bah, c'était comme ça. Donc elle m'a mis dans un lycée religieux à ce moment-là, et j'ai dû le garder pour moi. Et quand j'ai refait mon coming out à 20 ans, elle a eu le culot de me dire... Mais j'ai toujours su et je t'ai toujours aimé comme tu es. Et du coup, aujourd'hui, bon, on n'en parle juste pas. Hein. On fait comme si de rien n'était. Elle a changé d'avis entre-temps, grand bien lui fasse.
Mais oui, elle t'a toujours soutenu, elle te l'a dit.
Mais bien sûr, voilà. Qui suis-je pour mentir sur elle?
Exactement. Et qui est-elle pour te mentir aussi?
Exactement. Franchement. Voyons. Et mon coming out drag s'est beaucoup mieux passé. Alors, au début, ma mère n'avait pas bien compris, puisque ça reste une femme de 50 ans, qui a grandi en Guadeloupe, enfin qui vit en Guadeloupe, elle a cru que j'étais transgenre et que je voulais pas lui dire. Donc elle était très vexée que je voulais pas lui dire. Et je lui ai dit non, mais maman, non, c'est juste un métier, je gagne de l'argent. Elle m'a dit ah, mais tu gagnes de l'argent. Bon bah ça va.
Ok, voilà, hop, ça a coché une case, très bien.
Exactement.
Donc vous me dites quoi? Très bien, vous êtes bien en femme pour gagner de l'argent? Eh ben super, ça rentre dans ma case, ça me plaît. J'avais la case justement toute prête pour ça. Gagne de l'argent en s'habillant en femme, eh ben super.
Je gagne de l'argent parfois, ouais. C'est pas que bénévole.
Ah. Pas ce soir.
Apparemment, je crois que la Cour des Miracles me paye, mais bon, ça reste à voir.
Waouh.
Ils ont pas un bon rentable.
Ouais, ça parle numéro de ciré, là.
mais oui, et du coup, ma mère m'a évidemment demandé de lui prêter des perruques depuis qu'elle sait que je fais du drag.
Mais ça paraît, ça c'est incroyable. Lui as déjà prêté les perruques du coup?
Non, parce qu'elle abuse. Ma mère est une femme cis de 50 ans, elle n'a rien à faire avec une grosse perruque double stack. Il faut mettre une barrière parfois.
Non, mais franchement, et t'aimerais qu'elle te mette en drag? Franchement, moi j'aimerais trop qu'elle te mette en drag à sa manière et que toi tu la mettes en drag à ta manière.
En vrai, ça serait incroyable.
Ça serait incroyable.
Ça serait incroyable. Mais je pense que la prochaine fois que je vais en Guadeloupe et que je me motive à ramener du drag, ce qui sera sûrement jamais, hein, soyons honnêtes, un jour je mettrai ma mère en drag à mon avis. J'ai hâte qu'elle se voie aussi blonde et aussi maquillée.
Franchement, je suis prêt à être là pour documenter ça. Vraiment.
Je t'appelle sans souci.
Avec grand plaisir. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses qui te sont arrivées en drague ou des choses qui t'arrivent tout le temps quand tu es en drague?
Petit secret d'Aphrodite, je tombe tout le temps. Aphrodite tombe tout le temps. Alors, de base, c'est Clyde qui tombait tout le temps. Mais Aphrodite n'a pas le même centre de gravité parce qu'elle a un corset, elle a des pads. Du coup, il a fallu réapprendre pas à marcher en talons, mais à marcher. Et du coup, je me casse la gueule une fois sur deux quand je suis en gig. La dernière fois que j'ai performé dans un restaurant, il y avait une fissure dans la dalle du resto. J'ai coincé mon talon, je suis tombé. J'ai performé avec un talon sous la chaise d'un des clients. Et au moment où j'ai récupéré mon talon, je suis retombé.
Ah oui, c'est des cascades.
C'est intense.
D'accord, ok, intéressant. Donc c'est-à-dire que là, ce soir, parce que évidemment, juste après cette interview, je vais te regarder performer, potentiellement il peut y avoir une cascade.
50% de chance.
Aïe.
En général, j'arrive à faire percer ça pour un mouvement de danse.
Waouh, j'ai hâte. J'ai envie de faire une vidéo, je vais filmer comme ça non-stop. En attendant, je m'en fous des crampes, j'en ai rien à battre. Je veux une chute.
La gamelle, ça se... Ah oui, ah, c'est sûr, c'est sûr.
Yes.
En plus, j'ai des nouveaux talons, je les ai jamais portés. Ah, c'est sûr et certain, je tombe.
Bon, et franchement, si elle est tombée, vous le saurez et vous aurez la vidéo qui va,
avec.
Je suis désolé, hein, pardon, c'est très malsain ce que je raconte là, mais bref, ça me fait rire, je crois que ça me plaît. Cette diva de proximité, est-ce que t'as l'impression que, entre guillemets, dans le drag, en France, dans la scène drag en France, il y a des gens qui font ce que tu fais, toi ?
Bah, pour le coup, pas vraiment. J'avoue que déjà en tant que drag racisé, bah, on n'est pas énormément. On a l'impression qu'on est 15 en France. Ah, la vérité, c'est qu'on est beaucoup plus, mais il y en a tellement peu qui ont leur chance.
Manque de visibilité.
Donc en plus, moi, je fais un drag qui est... Bah, qui, c'est le paradoxe. Parce que je fais un drag qui est très connu. Le pageant, les gros cheveux, les tenues à sequins.
C'est quoi le pageant, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas?
Alors le pageant, ça va être ce drag typiquement américain d'une drag queen où on est quasiment sur de la caricature.
C'est du concours de beauté type Miss France.
C'est du concours beauté type Miss France, mais plutôt Miss Univers. On est vraiment sur... il faut qu'on te voit à 10 km. Comme disent les Américains, il faut se maquiller pour le fond de la pièce.
Et donc toi, c'est un peu ce que tu fais?
Moi, c'est un peu ce que je fais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'amour dans ce type de drague, que c'est très réconfortant. Et au final, c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins en France, parce que je trouve que la France est tellement axée niveau mode, même dans le drague, qu'on a quand même cette envie d'avoir peut-être une perruque moins gonflée, mais plus travaillée. Peut-être une tenue moins brillante, mais avec des plus beaux matériaux. Qu'avoir ce drag que je fais où on a quand même réussi à allier un petit peu les deux. On n'est pas habillé avec des fonds de poubelle, mais pas loin. Mais on a quand même cette générosité dans le drag qui est très américain, qui fait que je me suis pas mal démarqué au final. Et si on ramène ça au fait que je suis racisé, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de drags qui font la même chose que moi aujourd'hui.
Et justement, dans le drag, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la place des drags créatures racisées, noires? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il en faudrait plus?
Alors clairement, je pense qu'il faudrait beaucoup, beaucoup plus de drags. Alors, il y en a beaucoup. Donc c'est pas qu'il en faudrait plus, mais il faudrait qu'ils aient plus de plateformes. Il faudrait qu'ils aient plus d'opportunités. Il faudrait qu'on les voit plus dans le paysage médiatique. Parce que c'est facile d'interviewer toujours, enfin même pas d'interviewer, mais d'avoir tout le temps en face une petite drague blonde très féminine et très mince. Alors qu'aujourd'hui, en France, j'ai l'impression que plus de 50% des dragues sont des dragues à barbe, sont des créatures, sont des kings. Au final, le drag très féminin, c'est presque une minorité en France. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et c'est vraiment dommage.
Donc, on veut plus de dragues différentes, en fait, c'est ça?
Absolument. On veut du drag différent parce que le drag, c'est pas juste mettre une jolie perruque blonde et un joli tutu rose. Le drag, c'est tellement plus que ça. Et en disant ça, je me rends compte que ce soir, je portais une jolie perruque blonde tutu rose. Mais bon.
Oui, mais le drag est complexe.
Le drag est très complexe.
Du coup, on a le droit de se contredire aussi.
Exactement.
Tu sais quoi, Aphrodite, on arrive bientôt à la fin de cette émission.
Oh non.
Mais si, mais ça, le temps passe à une vitesse. Et surtout, il y a Coco qui me regarde avec des yeux méchants, en mode tu vas terminer ton interview, etc. Après, elle doit bosser, la petite.
Ouais, ouais.
Avant de nous quitter, est-ce que tu as des recommandations culture, des recommandations, point d'interrogation?
Déjà, je vous invite à suivre ce que fait la Cour des Miracles, puisqu'il me donne une opportunité aujourd'hui qui est pas mal. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même des gens très talentueux.
En fait, déjà, ils vont penser que j'ai un couteau sous la gorge.
Mais parce que c'est le cas, Coco. Enlève ce couteau, enlève ce couteau.
Range ce couteau, coupe. Coco, range le couteau.
Mais sinon, des recommandations, juste de suivre le drag en général, de s'ouvrir. Je pourrais pas vous recommander une personne en particulier parce qu'il y a tellement d'artistes incroyables, n'est-ce pas,
en France.
Ma mère, oui, Vazek. Mais tout le monde connaît Vazek. J'ai pas besoin de la recommander. Vazek Tommy sur Instagram, qui est incroyable. Si. Je suis obligé de vous le dire. Allez suivre Virgo Views et Léo fait son show. Je suis obligé contractuellement de le dire.
C'est très bien.
Je n'ai pas obligé de le mettre dans le podcast.
Non, mais voilà. Mais au moins, tu recommandes ton amoureux. Et lui, il devra me recommander à un moment ou à un autre.
On c'est va comme le forcer, ça. T'inquiète pas.
It's a deal.
Je vais prendre le couteau de coco et il le fera.
Mais toi qui es une... Toi qui es une drague culturée, justement, est-ce qu'il y a un livre que tu aurais envie de recommander, un film ou je ne sais quoi
Un film, parce que c'est facile de lire, mais le film Extravagance avec Wesley Snipes, c'est peut-être le film qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je ne le cite pas énormément parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ce film n'a pas compris la différence entre une personne transgenre et une drag queen, mais ce film est... Kemp, il est ridicule, il est théâtral à souhait, et je pense que c'est une merveilleuse introduction au monde du drag et à qui est Aphrodite Amour.
Très bien, et bah on va aller regarder ça, Extravagance. Eh bien, merci beaucoup, Aphrodite.
Merci à toi.
C'est la fin de cette émission, est-ce que ça t'a plu ?
Ça, j'ai adoré.
Ah, est-ce que tu recommandes ?
Je recommande à 1 000 000 %.
Bon, bah alors, ça, franchement, 1 000 000 %, c'est quand même... beaucoup de millions.
C'est le plus grand chiffre que
et
je connaisse.
C'est quand même beaucoup de pourcents. C'est le plus grand chiffre que tu connaisses. Oh, attends.
Je sais compter. Attends. Je sais lire, je sais pas compter.
Eh bien, merci Aphrodite et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, eh ben, likez le podcast, abonnez-vous. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Et merci Cocorica. Waouh. Vraiment, c'est amabilité.com.
Pour une fois.
Ah ouais, retrouvez toutes les dates de Cocorica sur amabilité.com. Voilà. À très bientôt, bye.
Bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.